Nous recevons donc aujourd'hui M. Daniel Treil, qui est spécialiste de la physique des particules, qui a été chercheur en physique des particules au CNRS, puis au CERN, dont il est actuellement membre permanent depuis 1976. Voilà, je vous remercie.
Bonjour et merci d'être venu. Donc voilà le titre de mon exposé. Pourquoi les particules ont-elles une masse? Point d'interrogation. Et ma réponse est en gros, j'aimerais bien le savoir moi-même. Donc vous savez, vous devinez qu'on ne pourra pas donner de réponse tout à fait définitive à ce sujet à l'heure actuelle. Par contre, on suit des pistes tout à fait précises que je vous décrirai. Je serai de temps en temps amené à distinguer le comment d'un problème par rapport au pourquoi du problème. Il est souvent plus facile de dire comment quelque chose se passe plutôt que pourquoi il se passe. Je devrais faire quelques petits détours au cours de l'exposé pour en arriver au problème de la masse. Et je ne vous cache pas que cet exposé a par moments un petit peu d'austérité. Ça n'est pas un problème trop facile. Les résultats expérimentaux dont je vous parlerai viennent essentiellement du CERN à Genève. Et à ce propos, je vous invite à venir le visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Je crois que c'est assez spectaculaire. Ils viendront surtout du LEP, la machine qui tourne en ce moment depuis 10 ans, qui s'appelle le Large Electron Positron Collider et qui assure des collisions électrons-anti-électrons. Et je vous annoncerai ce que fera dans 5 ou 6 ans le LHC, c'est-à-dire la machine qui lui succédera, qu'on appelle le Large Hadron Collider, qui assurera des collisions proton-proton. À l'occasion, vous m'entendrez parler aussi de résultats venant du Tevatron, qui est une machine anti-proton-proton près de Chicago. Les constituants élémentaires dont je vais vous parler sont les leptons et les quarks, et je vous les redéfinirai et présenterai dans un moment. Ce sont ce qu'on appelait autrefois particules élémentaires étaient les mésons et les hadrons, par exemple le proton, je parlerai souvent du proton qui est fait de 3 quarks. On s'est aperçu depuis déjà pas mal de temps que ces objets ne sont pas élémentaires mais composites et qui sont en fait faits à partir de quarks. Et ce qui marque un peu la limite de notre domaine, disons que la physique des particules s'intéresse aux grandeurs qui sont en dessous et bien en dessous du rayon du proton. Et le rayon du proton, c'est le Fermi. Donc voilà un premier nom qu'il faut que vous absorbiez. Le Fermi, c'est 10⁻⁰ cm ou 10⁻⁰ mètres en unité habituelle. Donc la physique des particules s'intéresse à ce qu'il y a en deçà de cette distance. Si on veut voir, entre guillemets, ce qu'il y a en dessous d'un Fermi, il faut un microscope, toujours entre guillemets, qui ait une longueur d'onde inférieure au Fermi. Alors la seule façon est d'avoir des particules de très haute énergie et d'utiliser la relation de De Broglie qui dit que la longueur d'onde associée à une particule va comme l'inverse de son énergie. Je serai assez cavalier dans les unités et je ne m'embarrasserai pas trop de constantes de Planck et de vitesse de la lumière. Je vous rappelle simplement qu'il y a une relation inverse entre la longueur d'onde dite de De Broglie et l'énergie d'une particule. Et je vous normalise la chose en vous disant qu'à un Fermi correspond une énergie de 1 GeV. Donc si vous voulez aller, disons, 1000 fois en dessous du Fermi, il vous faut en gros 1000 GeV. Qu'est-ce que c'est que le GeV? Eh bien, c'est 1 milliard d'électronvolts. Et je parlerai toujours en unité d'énergie, qui est l'électronvolt. C'est l'énergie qu'a acquis un électron accéléré d'un volt. Et je vous parlerai surtout de millions d'électronvolts, de milliards d'électronvolts, le GeV, et même de téraélectronvolts, le TeV. Donc la question habituelle, pourquoi faites-vous des accélérateurs si grands pour voir des choses si petites? Eh bien la réponse est, c'est la faute à Louis De Broglie. C'est parce que pour avoir une petite longueur d'onde, il faut une très grande énergie, et à technologie donnée, grande énergie veut dire grande dimension. que ce soit des grandes dimensions est évident sur ce schéma. Voilà la région du pays Gex, je ne sais pas si vous connaissez, l'aéroport de Genève, et voilà le tracé du LEP, 27 km de circonférence. On reviendra dans la seconde partie de l'exposé sur tous ces résultats. En fait, c'est un tracé virtuel parce que tout ça se passe à 100 mètres sous terre. Donc, on n'abîme pas le paysage. Voilà une autre photo du CERN vue en sens inverse. Vous voyez le lac, vous voyez le Mont Blanc là-bas, mais vous ne voyez pas le LEP qui est enfoui 100 mètres sous terre. Alors, tout à l'heure, on fera un petit peu de tourisme et je vous emmènerai dans les galeries du LEP rapidement pour vous reposer de l'introduction un peu théorique que je serai amené à faire. Un autre repérage que je voudrais vous faire, c'est de quel temps après le Big Bang nous nous occupons. Donc voilà un schéma d'évolution de l'univers dans un système de coordonnées logarithmiques. Vous voyez là la température qui régnait à un instant donné. Vous voyez qu'une unité, là, c'est déjà 6 ordres de grandeur. Et ceci est toujours en logarithmique, le temps après le Big Bang. Nous sommes ici. Vous voyez que cette échelle dilate terriblement les tout premiers moments. Vous voyez que dans cette échelle, la création des atomes à 300 000 ans, puis les étoiles, les galaxies, sont vraiment des événements de dernière minute. Je m'en excuse auprès de nos amis astrophysiciens, mais ce sont les coordonnées logarithmiques qui veulent ça. Le temps dont je vais vous parler, l'époque dont je vais vous parler, est ici à environ 10-10 à 10-11 secondes après le Big Bang, ce qui correspond à des températures d'environ 10 puissance 15 degrés. Et je vais essayer de vous montrer que c'est à ce moment-là, pense-t-on, que les particules ont acquis la masse que nous leur connaissons. Juste ici, il y a un endroit à environ quelques microsecondes où les quarks se sont irrémédiablement mis à l'intérieur des nucléons, les quarks qui étaient libres avant ça, et on pense avoir montré au CERN que dans des collisions d'ions lourds, c'est assez récent, ça a été annoncé récemment, on fabrique quelque chose de suffisamment chaud et suffisamment longtemps pour rendre brièvement leur liberté aux quarks et aux gluons du nucléon. Je vous montrerai aussi ce que donne l'extrapolation vers les temps plus reculés à partir de mesures de précision ici, dans le cadre de théories données, jusqu'à une distance ou un temps de 10-33 secondes qu'on appelle la grande unification. Et ensuite, à la fin, si j'ai le temps, j'irai, mais avec circonspection, un peu plus avant, en direction du temps de Planck et des supercordes. La masse, il faut quand même savoir de quoi on parle, la masse dont je vais vous parler, c'est une quantité exprimée en unité d'énergie et qui caractérise chaque type de particule. Entre autres, je ferai toujours C égale 1, c'est-à-dire je prendrai toujours la vitesse de la lumière comme unité. Dans ce cas-là, une particule de masse m a une impulsion et une énergie, et la relation correcte, relativiste, entre l'énergie, et l'impulsion et la masse est celle-ci, ou si vous voulez, si vous êtes plutôt géomètre, dessinez un triangle rectangle. Le côté, la base est de longueur constante, cette masse est un invariant, mais l'impulsion et l'énergie peuvent varier à condition que le triangle reste rectangle. La vitesse d'une particule est définie comme le rapport P sur E. Je voudrais juste vous signaler deux cas particuliers, soit une particule de masse non nulle, comme beaucoup de celles que nous allons étudier, et prenons le cas particulier où vous l'observez au repos, vitesse nulle, donc vous voyez ici que sa masse est égal à une énergie qu'on appelle E0, donc la masse et la quantité d'énergie contenue dans une particule au repos. Et c'est pour ça que constamment j'assimilerai la masse et l'énergie, enfin j'exprimerai la masse en unité d'énergie. Si la vitesse de la particule n'est pas nulle, alors l'énergie est plus grande que cette énergie E0 et la différence est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et tout notre travail au CERN, c'est de donner beaucoup d'énergie cinétique à des projectiles pour les faire se cogner. Et si V est voisin de 1, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, eh bien ce triangle en général est très haut et on assimile E et P, ce que je ferai aussi cavalièrement dans mon exposé. L'autre cas particulier, c'est une particule de masse nulle, on va en rencontrer le photon, le gluon, qui va toujours à la vitesse de la lumière. Donc une telle particule est toujours à la vitesse de la lumière dans le vide et ne peut être mise au repos. J'ai dit que je vous parlerai peu du proton et du neutron, c'est-à-dire de ces gros objets dont on sait qu'ils ne sont pas élémentaires, mais tout de même je voudrais m'expliquer sur quelque chose. Nous avons tous dans notre tête la notion classique de masse comme quelque chose d'additif, ça nous vient de Newton, de Lavoisier et de notre éducation. Autrement dit, un corps, pour nous, la masse d'un corps est égale à la somme des masses des constituants de ce corps. Alors pour nous, c'est vrai, nous sommes effectivement la masse, notre masse est la somme des masses des atomes qui existent en nous. Pour un atome, c'est encore vrai. Voici en unité d'énergie logarithmique la masse d'un atome et l'énergie cinétique de ses constituants. Et vous voyez qu'à un facteur qui est à peu près 100 millions près, c'est aussi vrai qu'un atome est fait de la somme des masses de ses constituants, qui est essentiellement le noyau, comme vous savez. Si je passe maintenant au noyau, c'est encore vrai, un noyau est à peu près fait de la somme des masses de ses constituants, mais déjà l'énergie cinétique est de l'ordre du pourcent. Et ce que je voudrais vous signaler, c'est que pour le proton et le neutron, alors n'oubliez pas que l'univers, la matière dite baryonique de l'univers est faite de protons et de neutrons, ben là il y a quand même quelque chose à remarquer, c'est que le proton a une masse de 1 GeV, et vous découvrirez au cours de l'exposé qu'il est fabriqué d'objets de masse quasi nulle. Il est fait de gluons de masse nulle, et il est fait, vous savez qu'un proton est fait essentiellement de 3 quarks, il est fait de quarks up et down, dont les masses sont réciproquement 4 et 8 MeV. Autrement dit, la somme des masses intrinsèques des constituants est au moins 100 fois plus petite que la masse du proton. Donc, le proton est essentiellement fait de l'énergie cinétique de ses constituants. Et comme le monde visible est fait de protons et de neutrons, eh bien même ce qu'on appelle le monde matériel est en fait fait d'énergie. Donc il y a des physiciens qui ont appelé ça la masse sans masse, et je crois qu'effectivement c'est le mot qui convient. Il est donc très important de savoir de quoi est fait la matière noire. Vous avez sans doute déjà rencontré ce problème. Vous savez que 95% de la masse de l'univers que l'on voit par gravitation, on ne sait pas ce que c'est. Donc tout dépend ce que c'est. Si c'est une particule élémentaire non encore découverte, comme par exemple une particule supersymétrique, alors la masse intrinsèque reprendra son rôle dans l'univers. Si par contre cette masse cachée était, on ne pense pas que ce soit ça, mais si c'était de la matière baryonique qu'on ne voit pas, par exemple des étoiles ratées, alors tout ce que je viens de dire s'appliquerait aussi à cette partie de la masse de l'univers, ce qui voudrait dire que la masse de l'univers est faite sans masse, ou presque. Néanmoins, les particules élémentaires, les constituants dont je vais vous parler, eux ont sans aucun doute une masse, alors laissez-moi les... Et c'est l'origine de cette masse sur laquelle je vais centrer mon exposé. Donc je vous les présente... Une fois de plus, les constituants élémentaires sont des fermions, ce sont des particules de spin 1/2. J'imagine que vous avez déjà rencontré la notion de spin, qui est le moment intrinsèque d'une particule. Inutile d'essayer de parler de toupie, c'est un phénomène quantique et les métaphores ne vont pas très loin. Rappelez-vous que les fermions obéissent au principe de Pauli, c'est-à-dire qu'ils détestent être à deux dans le même état quantique. Ils sont individualistes. Ces fermions sont les leptons et les quarks. Les leptons sont des objets libres qui se déplacent. Alors l'électron, vous le connaissez bien, c'est un centenaire tout à fait familier. Le muon Si je tends ma main, il y a un muon par seconde cosmique qui traverse ma main. Et si vous allez au Palais de la Découverte, vous verrez des chambres à étincelles réglées sur ces muons cosmiques et qui claquent à chaque passage. Donc la réalité du muon est parfaitement évidente. Et le Tao, c'est le troisième lepton. Il a été découvert il y a environ 25 ans. Et il y a les trois neutrinos associés. Celui-là, le neutrino associé au Tao, défrait la chronique en ce moment parce qu'on n'avait aucun doute sur son existence, mais c'est seulement il y a quelque temps qu'on l'a vu explicitement interagir. C'est ce qu'ont fait des gens à Fermilab à Chicago. Donc ces leptons sont libres et se promènent dans la nature. Il va de soi que ces deux-là, sont muons et Tao, sont instables et ne vivent pas très longtemps. Les quarks, par contre, sont des objets confinés. Alors, j'essaierai de vous expliquer un petit peu pourquoi. On dit en plaisantant que pour sortir, ils s'habillent. En fait, ils ne sortent pas. Ils se manifestent tout de même très clairement comme des jets de particules. Et dans les exemples qui suivront, vous en verrez beaucoup. Les différents quarks sont ce qu'on appelle les différentes saveurs de quarks. Et on les a affublés de noms bizarres. Le haut et le bas. Alors le haut et le bas sont donc le up et le down qui constituent le proton, donc qui nous font le charme et l'étrangeté, la beauté et le top. Alors au point de vue masse, puisque tel est notre problème, je vous signale que par exemple entre l'électron, sans même parler des masses de neutrinos, je ne veux pas en parler dans cet exposé, si vous avez des questions vous me demanderez, entre la masse de l'électron et la masse du top, 0,5 MeV, 175 GeV, il y a déjà un facteur 350 000, donc c'est extrêmement dispersé. Vous voyez que ces constituants sont groupés en trois familles, la famille de l'électron, la famille du mu et la famille du tau. Question, combien de familles? Est-ce qu'il y en a d'autres plus haut? Pourquoi ces familles? À la première question, je peux répondre, non, il y a trois familles et trois seulement. Si j'ai le temps, je vous montrerai comment on a prouvé ça au LEP. Pourquoi trois familles? Ça, je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Ces constituants sont ponctuels à mieux qu'un 10 000e de Fermi, c'est-à-dire quel que soit le pouvoir de résolution de ces grandes machines que je vous ai montrées, on n'a jamais mis en évidence de structure pour ces fermions. La deuxième catégorie d'objets, ce sont les bosons. Cette fois, ce sont des spins entiers. Le boson n'obéit pas au principe de Pauli. Au contraire, le boson est grégaire et les bosons adorent se mettre tous dans le même état quantique et agir de façon cohérente. On va retrouver ce phénomène un peu plus loin. Et ces bosons sont les véhicules des interactions que vous connaissez. Alors, vous êtes certainement familier de l'électromagnétisme et de la gravité. Vous n'êtes pas familier de la faible et de la forte parce que les portées sont si petites qu'elles n'entrent pas dans la vie quotidienne. Le vecteur de l'électromagnétique est le photon. Les vecteurs de l'interaction faible sont le W et le Z dont je parlerai abondamment. Et en particulier, un de nos mystères est que pourquoi le photon et le W sont si différents alors que dans la théorie que je vais vous décrire, ils sont vraiment des cousins. Et enfin, le gluon qui transmet la force forte ou force de couleur, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc je vous montre, c'est peut-être un des transparents les plus difficiles, dans toute leur horreur, le monde des fermions. Et vous voyez que par rapport à ce que je vous disais il y a un instant, j'ai triplé les quarks. Les quarks apparaissent sous ce qu'on appelle trois couleurs. Alors il faut vous dire que c'est une découverte expérimentale, que le quark possède une charge un petit peu semblable à la charge électrique, mais de nature complètement différente, et que cette charge peut prendre trois valeurs. Alors on appelle ces valeurs, juste par amusement, parce que ça n'a rien à voir avec la couleur des quarks, on peut les prendre bleu, rouge et vert, ou comme vous voudrez. Donc le quark est déjà un objet qui peut prendre trois formes différentes. L'autre chose que vous voyez, je vais vous faire grâce pour l'instant des indices gauche et droit. Retenez simplement que dans une famille donnée, les fermions, par exemple le charme et l'étrangeté, ou le numu et le mu, sont en fait des couples. Si vous voulez, le numu et le mu sont deux composantes d'un objet donné. Et vous pouvez imaginer donc que l'idée à retenir de tout ça, c'est que, en plus d'exister, je crois que ce transparent est important, en plus d'exister dans l'espace-temps, ces constituants mènent leur vie, alors je m'amuse un petit peu avec les termes, mènent leur vie dans d'autres espaces internes. Par exemple, les quarks, vous pouvez considérer qu'ils vivent dans l'espace de la couleur, que vous pouvez imaginer à trois dimensions, et que les fermions vivent dans un autre espace qu'on appelle l'espace de l'isospin faible. C'est là-dedans qu'ils forment des couples ou des doublés. Encore une fois, le numu et le mu sont deux composantes d'un vecteur que vous pouvez tourner à l'intérieur de l'espace de l'isospin faible. Donc, dans ces espaces que je suis en train de définir, qu'on retrouvera tout à la fin de l'exposé, qu'on appelle interne ou abstrait, imaginez la vie de ces particules et les rotations qu'on peut opérer. Par exemple, dans l'espace de la couleur, une transformation qui va vous changer un quark d'une couleur en un autre quark, ce qui n'est pas marqué là, et dans l'espace de l'isospin, des transformations, en fait, ce sont de véritables rotations qui vont vous transformer un numu en un muon ou un quark charmé en un quark étrange. Non, le fait très important est que ces rotations et ces substitutions laissent la physique invariante, c'est-à-dire que les équations de la théorie ne changent pas, gardent la même forme quand ces rotations sont effectuées. Alors, effectuer des rotations est un peu une vue de l'esprit, et ce que je vais vous montrer, ce sont les bosons, à leur émission ou à leur absorption, qui effectuent ces rotations. Donc, vous avez vu que les constituants gardent un certain nombre de mystères, et j'ai même atténué leur côté mystérieux en omettant un certain nombre de points complexes. Mais par contre, le mode d'interaction, lui, est simple. Entre deux fermions, l'interaction se fait en échangeant un boson, c'est-à-dire un boson vecteur de spin 1. Pour l'électromagnétisme, c'est tout à fait familier. Vous savez que deux électrons interagissent en échangeant un photon. Alors la convention est de représenter par une ligne ondulée ce photon. Ce photon se couple à la charge électrique. La charge électrique, vous avez une certaine familiarité avec lui. Et voilà la force, disons, de l'interaction électromagnétique, le célèbre alpha, la constante de structure fine qui vaut à peu près un centième. Alors, une des caractéristiques du photon, c'est de sentir la charge électrique, mais de ne pas porter la charge électrique. Un photon n'est pas chargé. Un photon, en particulier, ne va pas altérer les caractéristiques de l'électron avec lequel il interagit. N'étant pas chargé, vous ne verrez jamais, donc il faut chasser de votre esprit ce genre de diagramme, vous ne verrez jamais des photons interagissant entre eux parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Pour partir avec un mot savant, sachez que les théories d'un électron et du champ électromagnétique du photon s'appellent l'électrodynamique quantique et que c'est une théorie de jauge abélienne. Abélienne, ça vient du nom de M. Abel, qui est un mathématicien du siècle dernier. Si je passe maintenant à l'interaction forte, vous savez qu'on a depuis déjà pas mal de temps redéfini la vieille interaction forte en termes de force de couleur. Alors là aussi, le schéma est relativement simple. Les quarks ne changent pas de saveur, mais ils changent de couleur. Donc ils interagissent entre eux, à l'intérieur d'un proton, en échangeant cette charge qu'on appelle la charge de couleur. Par exemple, un quark rouge va interagir avec un bleu et ils vont se croiser leurs couleurs. Et quel est le vecteur qui porte la charge de l'un à l'autre? Eh bien, c'est le gluon. C'est le gluon qui, à la différence du photon, non seulement sent la charge de couleur GC, mais la porte, il en porte même deux. Mathématiquement, ça veut dire que c'est un tenseur dans l'espace de la couleur. Mais vous pouvez oublier ces mots barbares et vous rappeler simplement que le gluon est bicoloré. la force, l'intensité de la force forte est de l'ordre de 0,1, c'est-à-dire au moins 10 fois plus grande que la force électromagnétique. Et le fait que ces gluons portent la charge de couleur veut dire qu'ils peuvent parfaitement interagir entre eux. Donc ce genre de diagramme où deux gluons interagissent est parfaitement permis. Non seulement il est permis, mais il se produit en permanence dans les protons et il est la clé du confinement, c'est-à-dire il est la clé du fait que les quarks et les gluons ne sortiront jamais libres. Dans ce cas-là, on dit qu'on a affaire à une théorie de jauge non abélienne, toujours à partir de M. Abel. Pour l'interaction électrofaible, qui est la synthèse de l'interaction électromagnétique et faible, le schéma est le suivant. Les forces sont transmises, la force faible est transmise par un triplet de particules, de bosons vecteurs qu'on appelle les W, et par un singlet, un solitaire, qu'on appelle le B0. Dans le domaine des W, vous voyez qu'intervient une charge faible unique, encore une nouvelle charge à définir, que j'appelle G, et une autre pour ce singlet, pour ce solitaire B0. Alors ce qui est important de voir, c'est ce que font par exemple le W+ et le W-. Vous voyez sur ces graphes, qui entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle les graphes de Feynman, mais je ne les utilise ici que comme guide de pensée, si vous voulez. Vous voyez ce que fait un W+, il transforme par exemple son émission, transforme un mu en mu-, son absorption transforme un quark down, un quark bas en quark haut, ou un quark charmé en quark étrange, et ainsi de suite. Autrement dit, vous voyez là-dessus que le W fait effectivement ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces transitions à l'intérieur d'un doublet d'isospin faible. Je ne vous demande pas de vous rappeler le mot isospin faible, appelez-le comme vous voulez, mais il fait les transitions à l'intérieur de cet espace interne que j'ai défini tout à l'heure, donc il est l'agent de ces rotations. Une dernière petite complication, et puis ça ira mieux, c'est que ces deux bosons neutres, ici, ne sont pas les particules réelles que nous observons. Et les particules réelles que nous observons, c'est-à-dire le Z0 et le photon, sont en fait une combinaison linéaire, c'est ce qu'on appelle une superposition au sens quantique du terme, des particules mathématiques, si vous voulez, qui interviennent dans la théorie W et B. Et cet angle de rotation est ce qu'on appelle l'angle de mélange faible. Alors ici, puis-je vous faire remarquer quelque chose? L'angle de mélange faible que nous avons mesuré au LEP au pour 1000, son sinus vaut à peu près 1,5, et la relation entre la constante de couplage électrique, la charge électrique, et la charge faible est celle-ci. Donc vous voyez que la charge faible, en fait, est plus grande que la charge électrique. Donc, première petite rectification à ce qu'on dit d'habitude, la force faible n'est pas faible. Elle est plus forte que la force électromagnétique. Elle nous apparaît faible à notre échelle à cause du poids énorme, de la masse énorme de son véhicule et par conséquent de sa très courte portée, qui est environ 1/1000 de Fermi. Mais au point de vue intensité, elle est aussi intense que l'électromagnétique. Le modèle standard. Le modèle standard est une description mathématique de ce que je viens de vous énoncer en phrases. Le titre est modeste, mais la construction est assez fantastique. Elle permet le calcul ultra précis d'un grand nombre de quantités. Les prix Nobel de l'an dernier ont été attribués à deux personnes qui ont beaucoup contribué à raffiner le côté prédictif du modèle standard. Et je dois vous dire qu'il remporte un merveilleux succès. Au LEP, on a vérifié sur des dizaines d'observables de grandeur physique qu'il les prédit correctement au pour 1000 ou mieux. Alors, je vous répète un peu les deux grands principes. Je crois que vous les avez déjà à peu près compris. Le modèle standard, c'est des mathématiques, mais c'est une formulation des équations qui sont invariantes quand on échange des particules qui, a priori, sont différentes. Par exemple, pour l'interaction faible, je vous ai dit que le modèle devait être invariant quand on changeait un neutrino mu en un muon ou un charme en étrange. Donc, c'est une théorie qui est invariante sous les rotations dans l'espace de l'isospin faible. Pour l'interaction forte, la partie forte du modèle standard, c'est une théorie qui est invariante sous les rotations. Là, je mets un petit guillemet parce que les puristes comprendront que ce n'est pas tout à fait une rotation, soit invariante par rotation dans l'espace de la couleur. Et ces conditions d'invariance, ça vous pouvez le deviner, vous pensez à un objet comme un cristal, comme un flocon de neige invariant par rotation. Une fois qu'on sait que quelque chose est invariant, on a une petite idée de sa forme. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans le modèle standard. Ces conditions d'invariance dictent pratiquement complètement la forme des équations. Et d'autre part, c'est très fort sur le plan prédictif, parce que si vous savez qu'un membre d'un doublet existe, alors vous savez que l'autre doit exister. Et c'est bien comme ça que les découvertes se sont passées. Sachant que l'étrange existait, on en a déduit que le charme devait exister, et on l'a trouvé. Sachant que la beauté existait, on en a déduit que le top existait, et on l'a trouvé aussi. Cette formulation invariante ne peut se faire de façon cohérente que si on introduit les bosons requis. Alors les bosons, je vous les ai présentés, photons Z0 et W, parce que c'est eux, par leur émission et leur absorption, qui vont vous effectuer les rotations en question. Je rajoute un mot, peut-être pour les gens un petit peu spécialistes. Je dis même que cette possibilité, une fois qu'on a introduit les bosons, donne droit à ce qu'on appelle une invariance locale. C'est-à-dire que ça donne droit à la liberté de pouvoir effectuer des rotations arbitraires en chaque point de notre espace-temps et à tout moment. Donc en chaque point de notre espace-temps, il y a ce petit espace interne dans lequel j'ai envie de tourner arbitrairement. Eh bien oui, je peux le faire. C'est-à-dire, je peux écrire des équations qui satisfont à ça, à condition d'avoir inventé les bosons vecteurs. Jusqu'à ce stade, et historiquement ça a été le cas pendant de nombreuses années, nous venons de faire une belle construction, mais je pourrais vous montrer, je ne le ferai pas, que cette construction ne s'applique qu'à des particules de masse nulle. Ces bosons, pour faire le job qu'on leur a assigné, doivent être de masse nulle et aller toujours à la vitesse de la lumière. Une autre façon de vous faire intuiter ça, c'est peut-être de dire que quand on veut échanger, considérer comme équivalent deux quarks, il vaut mieux qu'ils se ressemblent du point de vue de la masse. C'est un peu gênant que l'un pèse 4 GeV et l'autre 175 GeV. Et la meilleure façon de se ressembler, c'est que tout le monde soit de masse nulle. Bon, là, je reconnais qu'il me manque un certain nombre de développements que je n'ai pas voulu faire pour vous prouver que ça ne marche qu'avec des masses nulles, mais c'est le cas. Alors, on est un petit peu ramené à notre point de départ. Ce monde n'est évidemment pas le nôtre, puisque notre boson Z0 pèse 100 fois comme le proton et notre quark top 200 fois comme le proton. Alors, je vais vous montrer, encore quelques minutes, qu'il y a une fin heureuse à l'histoire. Alors, vous avez vu que j'ai employé beaucoup, un peu en m'amusant, ce mot de liberté revendiquée de pouvoir faire les rotations que je veux. Eh bien, paradoxalement, ce qui va sauver le modèle est que, dans des circonstances particulières de la nature, il y a un phénomène extérieur qui vous refuse cette liberté de tourner. Alors, à partir de là, je dois faire un petit détour et je vais procéder par analogie. Je vais procéder par analogie avec un phénomène dont vous avez certainement entendu parler. Si vous n'en connaissez pas les dessous et la théorie, peu importe, je crois que je peux vous en donner l'idée, mais c'est un phénomène familier qui est la supraconductivité, et je vais vous montrer que le phénomène, le mécanisme qui donne de la masse aux particules et qui permet de se sortir de cette impasse, le mécanisme de Higgs, qui est un peu le centre de mon exposé, est très analogue à la supraconductivité. J'ai encore trois transparents un peu difficiles, après ça va s'arranger beaucoup, on fera un peu de tourisme pour se reposer. Le mécanisme de Higgs. Revenons à l'électromagnétisme et soit un électron qui se promène dans notre espace-temps. Vous savez qu'à cet électron, on associe une fonction de probabilité de présence qui dépend du point où elle est. Cette fonction a une phase et je voudrais la liberté de choisir la phase phi de x arbitrairement en chaque point de l'espace-temps. Eh bien oui, j'ai cette liberté, mais à condition d'avoir inventé le photon, parce que c'est le photon dans ses émissions et absorptions qui va me tourner la phase de la fonction d'onde de l'électron. Électron plus photon, je vous répète, ça fait l'électrodynamique quantique, qui est une théorie fabuleuse qui a été vérifiée et prédictive à 10-10 près. Pour l'électrofaible, vous commencez à comprendre, je voudrais, dans l'espace d'isospin faible, avoir la liberté d'effectuer une rotation arbitrairement en chaque point, c'est-à-dire en chaque point de l'espace-temps, à chaque instant, peu importe comment je définis ce que c'est qu'un neutrino mu ou un muon. Eh bien oui, j'ai cette liberté et je sais écrire la théorie en question si j'invente les bosons W et Z. Alors tout ça va très bien, sauf si la nature invente quelque chose qui s'oppose à cette liberté et qui me la refuse. Donc voilà le passage clé que je vous explique maintenant pour l'électromagnétisme. Supposons qu'au lieu d'être dans le vide, vous soyez dans un milieu supraconducteur. Dans un milieu supraconducteur, vous savez que les électrons de conduction, par une interaction subtile avec le réseau, se groupent en paires, deux électrons. Deux fermions qui se mettent en paires, ça fait un boson. Et ça s'appelle les paires de Cooper. Comme je vous ai dit, ces bosons adorent se mettre tous dans le même état et agir de façon cohérente. Donc ces paires de Cooper, dans un supraconducteur, agissent, on pourrait dire, à l'unisson. Et ça, ça veut dire que ça fabrique un champ, dit le champ des paires de Cooper, qui remplit le supraconducteur et qui bloque la phase de façon cohérente. Autrement dit, dans un supraconducteur, la nature me refuse la liberté que je revendiquais tout à l'heure, qui était de tourner la phase de mon électron librement. Alors, dans un supraconducteur, il y a un phénomène tout à fait passionnant, en fait, vous le connaissez, c'est l'effet Meissner. Un supraconducteur refuse qu'un champ magnétique entre dedans. Le champ magnétique à la surface d'un supraconducteur, un champ magnétique extérieur, ne peut pénétrer que d'une longueur lambda. Ça s'appelle la longueur de pénétration, et c'est environ un dixième de micron, si je me rappelle bien. Alors, un champ électromagnétique qui ne peut pas pénétrer, tout se passe comme si son quantum avait acquis une masse. Et la masse, comme vous savez bien, c'est comme l'inverse de la longueur de pénétration, de la distance que le quantum peut faire. Autrement dit, tout se passe comme si, s'il y a des puristes de la supraconductivité, ils sauront bien que je simplifie un petit peu, mais tout se passe comme si, dans un supraconducteur, le photon avait acquis une masse, et on peut même montrer, ça c'est rigoureux, que cette masse va comme la racine carrée de la densité des paires de Cooper. Eh bien, vous avez là l'idée du mécanisme de Higgs. On va changer d'espace et on va dire que dans cet espace d'isospin faible, dans cet espace interne d'isospin faible, quelque chose, un champ hypothétique, qu'on appelle le champ de Higgs, va imposer une orientation dans l'espace de l'isospin faible. Ça va me faire perdre la liberté de faire ces rotations dont je parlais tout à l'heure, et le résultat sera exactement le même. Tout ce que je dis là est mathématiquement rigoureux, mais évidemment, je dois vous l'exprimer en phrases. Le W et le Z deviennent massifs, comme le photon est devenu massif dans le supraconducteur. Ce qu'on appelait tout à l'heure densité du champ des paires de Cooper, on va l'appeler maintenant une quantité V, valeur attendue dans le vide du champ de Higgs, mais la formule de la masse que va prendre le W et le Z est tout à fait copiée, tout à fait semblable à la formule de la masse que le photon prend dans le supraconducteur, c'est simplement un demi de GV. V, c'est donc cette quantité-là, qui a la dimension d'une énergie et qui vaut environ 250 GeV. G, c'est la quantité, la charge faible que je vous ai introduite tout à l'heure. Que vous connaissiez l'effet Meissner, certainement, en voilà une conséquence. Cette conséquence, c'est la lévitation d'un échantillon supraconducteur au-dessus d'un aimant. Si vous vous penchez sur ce phénomène, vous comprendrez qu'il est totalement lié à l'effet Meissner, c'est-à-dire au fait qu'un supraconducteur refuse à un champ magnétique le droit d'entrée. Le champ de Higgs, pour qu'il puisse faire son travail de boussole, si vous voulez, dans l'espace d'isospin faible, doit être à nouveau un doublet, comme l'étaient le numu et le mu, complexe. Complexe, ça veut dire qu'il y a deux composantes réelles. Un doublet complexe, c'est quatre composantes scalaires réelles. Alors, quand vous faites les mathématiques du mécanisme de Higgs, vous apercevez que le W et le Z mangent trois de ces composantes scalaires réelles et deviennent massifs, et il en reste une qui quantiquement correspond à un boson qui dans notre espace est un scalaire de spin zéro, qu'on appelle le boson de Higgs. Alors on va se consacrer à sa recherche dans la suite. En bref, les masses du W et du Z ont été ainsi prédites, exactement comme je vous l'ai dit, avec la formule que je vous donne, et elles étaient prédites avant d'être découvertes au CERN. Vous savez que ça a été découvert en 1983. Le photon, dans les mathématiques du mécanisme de Higgs, vous vous apercevez qu'il n'interagit pas avec le champ de Higgs, il reste donc de masse nulle. Par contre, les fermions interagissent avec le champ de Higgs et deviennent massifs. Leur masse, dans le mécanisme de Higgs, est proportionnelle à l'intensité de leur couplage avec le champ de Higgs. Malheureusement, dans le modèle standard, cette intensité de couplage n'est pas prédite. Donc, dans ce domaine-là, pour les fermions, on n'a fait que remplacer une ignorance par une autre. Voilà, alors il faut que j'aille peut-être un tout petit peu plus vite. Le vide n'est pas vide, en résumé, puisqu'il y a un champ en permanence dedans. Le vide, il y règne un champ de valeur moyenne non nulle qu'on appelle le champ de Higgs. Le vide se comporte comme un supraconducteur. Il s'oppose à la propagation des champs de l'interaction faible dont les quantas deviennent massifs. C'est exactement la même chose que l'effet Meissner en supraconductivité. Cela est vrai en dessous d'une température critique de 10 puissance 15 degrés, donc sans aucun doute, ce supraconducteur est celui de plus haute température que vous ayez jamais vu. Il doit exister un boson scalaire à découvrir, qu'on appelle le boson de Higgs, mais on peut aussi imaginer que le champ de Higgs soit un effet coopératif d'objets plus élémentaires. Vous devez dire, cet homme est très abstrait, il m'a introduit une grandeur V comme ça. Que veut dire cette grandeur V? Je vous montre en une seconde que si V, 250 GeV, était deux fois plus grande, la masse du W serait deux fois plus grande, le rayon du Soleil serait un tiers plus petit, sa température serait plus haute de 22%, et son spectre serait largement décalé vers l'UV. Donc au moins le commerce des crèmes solaires serait complètement changé par rapport à ce qu'il est maintenant. Conséquences expérimentales, que faisons-nous à ce propos? Voici donc, je vous remontre le schéma du LEP et du LHC, et comme je vous invite à le visiter, je vous montre par exemple le tunnel du LEP, voici l'arc du LEP dans lequel les électrons et les anti-électrons tournent. Et pour les accélérer et leur donner ou leur rendre l'énergie qu'ils perdent en tournant, on les fait surfer sur une vague de radiofréquence et on utilise pour ça des cavités supraconductrices refroidies à l'hélium liquide dont le matériau supraconducteur et du niobium. Donc, vous avez ici un champ électrique accélérateur longitudinal et les particules qui arrivent avec la bonne phase pour le trouver accélérateur reçoivent l'énergie dont elles ont besoin. Voici une photo d'une de ces cavités. Nous en avons fait environ 300 comme ceci. Et voilà une photo de l'endroit du LEP où ces cavités sont installées. Vous ne les voyez plus parce qu'elles sont dans leur cryostat et donc elles sont dans le vide pour être amenées à 4 degrés absolus. Donc vous voyez simplement les entrées de puissance qui amènent la puissance RF depuis les clistrons qui la fournissent. Donc au LEP, depuis 1989, nous avons d'abord fabriqué le Z0 en très grande série. On en a fait environ une vingtaine de millions. Voilà le schéma de fabrication du Z0 qui ne vit que 3 10 puissance 25 secondes et se désintègre en fermions, antifermions. Et voilà le diagramme de Feynman correspondant. Nous avons mesuré la masse du Z0 à environ 20 parties par million. Je pourrais vous raconter les histoires épiques de cette mesure quand on a voulu arriver vraiment à la dernière décimale. Il a fallu tenir compte des marées terrestres du pays de Gex qui nous changeaient un petit peu, qui changeaient les 27 km par un tiers de millimètre et changeaient donc l'énergie par quelques MeV. Il a fallu se rappeler qu'en hiver, il y a un peu plus d'eau dans le lac de Genève qui fait pencher le LEP et le distord à nouveau d'un tiers de millimètre. Et il a fallu se rappeler que quand un train électrique passe en haut du LEP, il y a un courant qui plonge dans le LEP et qui change légèrement la magnétisation des aimants. Donc, ayant corrélé tout ça, ayant corrélé nos mesures à la position de la Lune, aux horaires des trains et au niveau de l'eau dans le lac, on a donné une des mesures les plus précises qui soit. C'est une mesure qui va aller dans les textes de classe de physique. Elle est à 20 ppm. L'angle de mélange électrofaible, nous l'avons mesuré au pour 1000. Depuis quelques années, nous avons monté l'énergie et nous avons fabriqué en petite et moyenne série, on a environ 30 000, les paires de W, le diagramme correspondant est celui-là, et nous sommes actuellement en train de mesurer la masse du W à 1,5 pour 1000. Et surtout, le fleuron de la recherche que nous effectuons en ce moment au LEP est la recherche directe du boson de Higgs. Nous sommes actuellement à une énergie centre de masse, c'est-à-dire deux fois l'énergie des faisceaux, de 208 GeV. Alors, je vais peut-être me focaliser sur un dernier aspect important de cette physique. Le monde microscopique est un... Donc je me focalise sur des à côté des mesures du LEP, mais qui sont tout à fait importantes pour la suite. Le monde microscopique est un monde quantique dans lequel les particules virtuelles jouent un rôle. Vous connaissez la métaphore que le vide quantique est une banque qui peut avancer de l'énergie d'autant plus qu'elle est remboursée vite. Autrement dit, le vide peut fluctuer brièvement en une paire particules-antiparticules, c'est-à-dire que vous pouvez faire le Z0 comme ça, qui se désintégrera en fermions et antifermions, mais vous pouvez aussi avoir une fluctuation du Z0 intermédiaire en une paire top-antitop, même si le top est beaucoup trop lourd pour être produit réellement dans l'état final. Ça, c'est la vie dans le monde quantique dans lequel nous sommes. Autrement dit, toutes les particules connues, même si elles sont trop lourdes pour être produites, peuvent intervenir ainsi que des nouvelles espèces éventuelles. Et la présence de ce genre de diagramme qui corrige celui-là modifie un peu les valeurs numériques des grandeurs mesurées. Et il y a deux conséquences. Premièrement, par des mesures très précises, comme celle que je ne vous ai pas décrite, ça c'est un autre exposé, on peut obtenir de l'information sur des particules, même si elles sont trop lourdes pour être produites dans l'état final, par exemple le top et le boson de Higgs, je vous montre ça dans une seconde. Deuxièmement, les constantes de couplage et même les masses dont nous parlons sont en fait des quantités qui courent légèrement et qui dépendent du pouvoir de résolution de l'observation, donc de l'échelle d'énergie à laquelle vous travaillez. Voilà l'exemple pour le top. Au LEP, nous n'avons jamais produit de top, mais par des mesures précises d'un certain nombre d'observables qui sont listés là-haut, nous avons pu, grâce à la nature quantique du monde, donner en fait la masse du top, ce sont les ronds blancs, en fonction des années, jusqu'au moment où nous avons suffisamment donné l'indication à nos collègues américains de Fermilab, qui ont l'énergie disponible dans leur collisionneur antiproton-proton, pour qu'ils fassent effectivement le top et le découvrent. Donc, mesure indirecte de la masse du top. Maintenant que le top est bien connu, l'autre particule hypothétique du modèle standard, qui est le boson de Higgs, on peut aller à sa recherche, on fixe la masse du top de façon relativement précise à partir des mesures directes que je vous ai données, et on peut sentir maintenant l'effet d'un boson de Higgs dans le modèle standard, et le résultat est ici. C'est sa version tout à fait récente que nous envoyons maintenant à la conférence d'Osaka. C'est une courbe en Ki2. Ceci est la masse du Higgs en logarithmique. Oubliez cette présentation de courbe en Ki2. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le LEP nous indique que le boson de Higgs doit être quelque part dans cette région vers le bas de la courbe. Autrement dit, si on regarde jusqu'à quelle masse il peut être vers le haut, on découvre qu'il doit être plus léger que 170 GeV à 95% de coefficient de confiance. Le petit problème, c'est que par des mesures directes, peut-être par lesquelles je vais finir, on montre que le boson de Higgs, en fait, est déjà plus lourd que 110 GeV. Donc, ou bien on n'a pas encore eu de chance et le boson de Higgs est effectivement quelque part entre 110 et 170, ce qui est tout à fait possible, ou bien, pour la première fois, le modèle standard se trouve face à une contradiction, c'est-à-dire que ces indications indirectes par les boucles et la réalité directe de l'objet qu'on croit sentir ne coïncident pas. Je suis très en retard comme d'habitude, mais ça ne fait rien. Je vais maintenant simplement terminer en vous montrant où nous en sommes de la recherche directe du boson de Higgs. Le boson de Higgs, tel qu'on l'a fabriqué, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, on en connaît tout, sauf sa masse. On sait qu'il se couple de préférence aux particules les plus lourdes. J'ai eu le temps de vous dire que le couplage d'un fermion au boson de Higgs était proportionnel à la masse de ce fermion. Autrement dit, si nous cherchons un boson de Higgs qui est de l'ordre de 100 GeV, ben vous pouvez faire le calcul, il n'a pas le droit d'aller en paire de W, qui sont trop lourdes. Le dernier fermion dans lequel il peut se désintégrer est la beauté. Donc il faut le chercher en beauté et anti-beauté. Il aime aussi être produit par couplage avec les particules les plus lourdes. Donc au LEP, il va être produit de cette façon-là. Il va être produit par production d'un Z0, qui est en fait un Z0 virtuel, qui va se désintégrer en X et Z0 réel. Donc il faut chercher un objet qui se désintègre en beauté anti-beauté et qui est produit en association avec un Z0. Juste deux petits mots. Dans le modèle standard, le boson de Higgs ne peut pas être trop lourd, autrement, ça ne serait plus la peine d'en parler, il vaudrait mieux parler d'un mécanisme, et il ne peut pas être trop léger non plus, pour des raisons de stabilité du vide que je ne décrirai pas. Donc la région préférée est 130-180. Donc pour le modèle standard, l'état actuel des choses, puisque la région 130-180 est encore libre, est correct. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pour une théorie un peu différente, une légère complication du modèle standard qui s'appelle la supersymétrie. Par contre, elle commence à être un petit peu en danger parce qu'elle prédit de façon très stricte l'existence d'un boson de Higgs en dessous de 130 GeV. Donc on arrive à 115, il n'y a plus beaucoup de place pour la supersymétrie. un boson de Higgs au LEP 200, ben, je vous ai décrit un petit peu à quoi il ressemblerait. Je vous ai dit qu'un boson de Higgs sera produit en association avec un Z0. Alors voilà une vue transverse d'un de nos détecteurs du LEP. Et vous voyez là deux muons et deux jets de particules, c'est-à-dire deux muons et deux quarks. Nous avons reconstitué les masses de tout ça et nous savons que vraisemblablement un tel événement est une paire de Z0, l'un s'en va en muon, l'autre en quark-antiquark, mais c'est exactement aussi la topologie que prendrait un Z0 allant deux muons et un Higgs allant en beauté-antibeauté. Un autre schéma possible est celui-là, c'est un Z0, une paire de Z0 qui vont en quatre quarks. Vous avez un jet de vert, rouge, un noir, un bleu, et ça pourrait tout aussi bien être un boson de Higgs en association avec le Z. Tout ça pour dire que la recherche du boson de Higgs possède un bruit de fond, c'est-à-dire un phénomène normal du modèle standard qui lui est assez similaire, et que c'est seulement l'étude statistique fine des données qui montrera si on voit le boson de Higgs ou pas. Et le résultat le plus chaud, qui lui aussi vient de partir pour la conférence d'Osaka, est par exemple celui-là. Voilà la masse reconstruite du système beauté-antibeauté. Voici nos données. Voici en jaune ce que prédit le modèle standard. Et voici en rouge ce que serait un signal de boson de Higgs s'il y avait un boson de Higgs à 110 GeV. Donc sans faire de statistiques compliquées, vous voyez que nous avons au LEP exclu l'existence d'un boson de Higgs du moins standard de moins de 113 GeV. C'est notre limite actuelle. Il va de soi que il y a d'autres pistes à explorer. Le boson de Higgs pourrait être un petit peu plus compliqué que ce qu'on dit là. Par exemple, il pourrait être invisible. Dans les théories de supersymétrie, il pourrait se désintégrer en particules invisibles. Au LEP, ça n'est pas un problème. Un boson de Higgs invisible associé à un Z0 visible, on est tout à fait capable de le reconstruire, car on sait faire le bilan d'énergie et d'impulsion et voir que manque un objet dont on sait mesurer la masse, même si on ne le voit pas. Donc ça n'est pas un problème. De façon un peu plus fondamentale, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra que je m'arrête, il se pourrait, vous voyez que je vous ai introduit le mécanisme de Higgs par référence à la supraconductivité, ce qui n'était pas tout à fait innocent. En supraconductivité, les paires de Cooper sont deux électrons, donc on sait bien qu'une paire de Cooper n'est pas un objet élémentaire. Or ensuite, nous avons assimilé le champ de Higgs et son quantum au champ des paires de Cooper. Donc il se pourrait que le Higgs soit aussi quelque chose de composite, un peu à l'image des paires de Cooper. Il se pourrait aussi qu'il n'y ait pas de champ de Higgs, mais un autre type d'interaction. Il faut néanmoins que quelque chose brise la symétrie électrofaible, c'est-à-dire donne la masse à ces particules. Donc une autre voie qui est poursuivie à l'heure actuelle et qui ressemble pratiquement beaucoup à la recherche du Higgs est d'imaginer qu'il y a une autre échelle de fermions liée par une nouvelle force. C'est une force que, dans une certaine mesure, on peut copier sur la force de couleur, mais à une échelle d'énergie beaucoup plus grande. Alors c'est un dernier mot que vous pourrez vous rappeler en partant, c'est joli. Ça s'appelle la théorie de la technicouleur et ce qui tiendrait lieu de champs de Higgs serait de même que pour les paires de Cooper, seraient des associations de technifermions. Donc encore une fois, c'est une recherche qui est aussi opérée, elle est assez similaire du point de vue des exigences physiques de la recherche du boson de Higgs. Voilà, bon ben je crois que le dernier mot de l'histoire, je vais m'arrêter avec ce transparent, je n'ai pas le temps de vous présenter le LHC. Si le LEP, vous voyez donc dans quelle situation on est, on a une limite indirecte sur le boson de Higgs aux environs de 200 GeV, à moins que quelque chose ne conspire pour nous tromper. On est en train de solidement réfléchir à tout ça. On a une limite directe aux environs de 113 GeV, donc il reste une centaine de GeV où cet objet pourrait se trouver. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'il est quelque chose de composite? Est-ce que le champ de Higgs est remplacé par quelque chose de non élémentaire? Nous ne savons pas vraiment à l'heure actuelle. Et je dirais, pour terminer, que ça va être la principale mission du LHC. En 2005, quand je vous dis « venez vite visiter le CERN », c'est parce qu'à la fin de cette année, nous allons casser le LEP et ses expériences. Donc si vous voulez les voir debout, il vaudrait mieux que vous veniez avant la fin de l'année. Ensuite, il y aura quelques années un petit peu difficiles où nous serons dans la construction du LHC, dans le même tunnel, une machine tout à fait différente qui nous donnera des collisions proton-proton à 14 TeV. Ça sera évidemment beaucoup plus puissant. J'aurais pu vous montrer que ça sera aussi beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas pareil que de faire interagir des protons d'interaction forte avec des électrons d'interaction électrofaible, mais très certainement ça nous permettra de comprendre la nature, si ça n'a pas été fait à LEP, de comprendre la nature du mécanisme de la brisure de la symétrie électrofaible, de trouver le ou les bosons de Higgs si elles existent, ou bien de montrer les alternatives possibles. Une autre question chaude, disons que c'est les deux grands thèmes de la physique à venir, dans la décennie à venir, c'est de savoir si cette idée de supersymétrie qui rétablit la symétrie entre les fermions et les bosons, j'ai malheureusement pas eu le temps de vous la présenter, est une vérité ou une illusion. Donc, la mission de ce genre de machine est de découvrir les partenaires supersymétriques si elles existent et si on en trouve, d'effectuer sur eux une certaine métrologie. Et enfin, bien entendu, comme dans tous les cas où on fait une machine nouvelle qui pousse le domaine d'exploration de un ou deux ordres de grandeur, il faut se préparer à l'imprévu et il pourrait arriver des choses très amusantes. Par exemple, des récurrences de bosons vecteurs. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez assisté à des conférences où les conférenciers se sont prononcés sur la possibilité de dimensions supplémentaires recroquevillées à notre espace-temps. C'est très à la mode ces jours-ci. Il pourrait y avoir des situations où cette existence de dimensions supplémentaires a des effets visibles déjà au LHC, avec un petit peu de chance. Voilà, je crois que je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais je vais m'arrêter là, puis répondre à vos questions.
Tout d'abord, juste une petite question à propos de votre premier transparent. Il me semble que vous avez écrit lambda égale 1 sur E. Bon, il me semble que c'est plutôt 1 sur racine de E.
Non, non, c'est le lambda de...
Alors, de Broglie, c'est lambda égale sur MV. Or,
la formule de Broglie, c'est lambda égale H sur P. Et P, c'est E sur C. Donc la formule correcte aurait dû être lambda égale HC sur E.
Une question aussi en ce qui concerne la disproportion entre... Enfin, nous sommes tous éblouis par la beauté du modèle standard, mais comment interprétez-vous le fait que jusqu'à présent, le plus grand problème auquel est confrontée la physique pratique, parce que nous sommes ici dans une école d'ingénieurs, à savoir la fusion contrôlée, espérez-vous pouvoir aboutir à des résultats concrets ou imaginez-vous qu'il sera nécessaire de chercher une autre voie ? Comme un peu la théorie de Ptolémée n'était pas fausse, mais a tout d'un coup cédé la place à la théorie de Copernic. Peut-on imaginer une nouvelle voie radicale pour permettre des applications, en particulier dans l'énorme projet de la fusion contrôlée ?
Bon, là, vous posez une question qui est infiniment éloignée du sujet dont je parle. Je peux essayer d'expliquer pourquoi. Je vous parle de densité par particule de l'ordre de GeV ou de dizaines de GeV ou de centaines de GeV. Les problèmes auxquels vous faites affaire, vous faites référence, sont des problèmes techniques de contenir, si vous voulez, des états à densité d'énergie beaucoup plus faible. Alors avec l'énergie nucléaire, vous devez contenir un volume de matière qui émet des particules dont l'énergie typique est le MeV. Avec la fusion, ça sera un petit peu plus haut, mais on est encore à des années-lumière, c'est-à-dire à des ordres de grandeur, des densités d'énergie dont je parle là. Donc ces réactions dont je parle, ce sont des réactions entre deux particules individuelles qui se font dans un vide complet et qui émettent quelques particules. Il n'a absolument rien de macroscopique dans ce que j'ai décrit. Pour vous fixer les idées, depuis que le CERN existe, c'est-à-dire 45 ans, si j'additionne la masse de toutes les particules que le CERN a accélérées, c'est 1 mg. 1 mg. Donc vous voyez qu'on est loin de... D'une part, on n'est pas très dangereux parce qu'on ne travaille pas sur de grandes quantités de matière, mais d'autre part, on est infiniment loin d'avoir en vue des solutions énergétiques. Alors, par contre, au CERN, il y a des gens qui réfléchissent, comme notre ancien directeur général, Carlo Rubbia. Donc, Carlo Rubbia a pensé à des systèmes énergétiques, mais ce qu'il a inventé et les travaux qu'il a faits n'ont rien à voir avec la physique de base qui se fait au CERN. Donc, ma réponse est que, vraiment, honnêtement, la physique des particules, bon, je vais le dire très honnêtement, nous sommes des consommateurs d'énergie et nous ne serons jamais des producteurs d'énergie.
Madame.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure, à la fin de votre exposé, d'autres espaces, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que moi, je ne sais absolument rien.
Alors, j'ai parlé pendant mon exposé d'un certain nombre d'espaces internes, c'est-à-dire des espaces abstraits, appelez-les comme ça. Ils n'ont rien à voir avec l'espace-temps. L'espace d'isospine, l'espace de la couleur, un espace à une dimension qui est l'espace de la phase de rotation de la fonction d'onde de l'électron, et ainsi de suite. Mais ça sont des espaces externes. Maintenant, il se trouve que des théories récentes reprennent une vieille idée qui est d'imaginer que l'espace-temps, alors l'espace-temps, comme vous savez, il a trois dimensions d'espace et une dimension de temps, qui est d'imaginer qu'il y a davantage de dimensions d'espace que ça. Bien entendu, l'évidence est contre, nous ne voyons pas de quatrième ou cinquième dimension d'espace, mais nous n'aurions aucune chance de les voir si ces dimensions se sont enroulées sur des tailles petites. Si par exemple ces dimensions sont enroulées à la taille de Planck, elles existent quand même, mais nous n'avons aucune chance de les voir. Si même elles sont enroulées à moins que 1/10 millième de Fermi, nous n'avons toujours aucune chance de les voir. Et on nous dit même que si elles sont de l'ordre de 100 microns et que la gravité s'en va agir dans ces extra dimensions, nous n'avons toujours aucune chance de la voir. La gravité, ben ça c'est un bel exercice pour les ingénieurs d'ici, la gravité n'a pas été testée en dessous de 100 microns. On ne sait pas si la formule de Newton est valable en dessous de 100 microns. Donc si vous voulez inventer un joli mécanisme, un pendule qui teste la gravité en dessous de 100 microns, vous nous rendrez service. Autrement dit, l'idée actuelle est de dire que et de reprendre une vieille idée qui date de 1920, qui a été lancée par messieurs Kaluza et Klein, qui avait ajouté une dimension supplémentaire à l'espace et qui disait qu'il retrouvait tout l'électromagnétisme en plus de la relativité générale en ajoutant une cinquième dimension recroquevillée à notre espace. Alors maintenant, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des supercordes, qui refondent l'univers non plus sur des points, mais sur des objets de taille finie, la taille étant de l'ordre de la taille de Planck. Et ces supercordes, pour être viables, doivent vivre dans un espace à 10 dimensions. Donc il y a 6 dimensions supplémentaires, d'après cette théorie, il y aurait 6 dimensions supplémentaires recroquevillées à notre espace, Et la chose intéressante est d'essayer d'imaginer la géométrie de ces six dimensions. C'est d'ailleurs là-dessus que je voulais finir, parce que peut-être la vérité ultime de la masse des particules, c'est que toute particule ne soit qu'un mode de vibration particulier, un harmonique d'un objet unique qui est une supercorde. Donc ça serait très joli, parce que ça donnerait évidemment une vision globale sur toutes les particules. En quelque sorte, la supercorde serait un instrument de musique et les particules en seraient la musique, en seraient les notes. Et la tonalité, les harmoniques, si vous voulez, donc la nature exacte de la particule, ses charges, sa masse, dépendraient de la géométrie de ces extra dimensions, de ces six dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Tout ceci n'est que de la spéculation,
oui,
pour l'instant.
J'allais vous demander, est-ce que oui. C'est une pure spéculation ou est-ce que c'est basé sur quelque chose de très... Enfin, à l'origine, est-ce qu'il y a quelque chose de précis ou bien est-ce que c'est purement presque métaphysique ?
À l'origine, c'est une nécessité parce que quand on s'approche... Vous avez vu que j'ai interrompu prudemment à 10 puissance moins 33 secondes mon évolution de l'univers. Jusque-là, je crois qu'on a l'impression qu'on sait à peu près ce qu'on dit. Quand on va plus loin et qu'on s'approche du temps de Planck, c'est-à-dire 10 moins 44 cm si je ne m'abuse, on se heurte à un problème. C'est que l'interaction gravitationnelle que j'ai soigneusement ignorée dans mon exposé qui est misérablement faible entre particules, pas entre nous et astres, mais entre particules à notre énergie, devient aussi forte que les autres forces à cet endroit-là. Autrement dit, même pour la physique des particules, on ne peut plus ignorer l'interaction gravitationnelle. Or, jusqu'à une date récente, la relativité générale et la mécanique quantique, dont il y a besoin des deux pour rendre compte de phénomènes particulaires à cette échelle, ne savaient pas vivre ensemble. On ne savait pas faire une théorie unifiée des deux, il entrait dedans des infinis en tout genre. Et la théorie des cordes, ça a été la volonté de refonder le monde. Pourquoi on ne savait pas faire ? Parce qu'on fabrique l'univers sur des points, et c'est le point qui est l'abstraction de base. Je crois que même du temps de Descartes, quelqu'un lui avait dit « le point se vengera ». Ben le point est en train de se venger, c'est-à-dire que vraisemblablement, en chaque point entre guillemets de l'espace-temps existe un espace plus compliqué que ça. Donc la volonté des supercordes était de rebâtir le monde. C'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, même sur le plan philosophique, de rebâtir le monde non plus sur une description de points abstraits, parce qu'après tout, aucun d'entre nous n'est capable de définir ce que c'est qu'un point, et de le bâtir sur des objets de dimension finie, pas grande, la distance de Planck. Donc c'était une nécessité salutaire. Alors il y a eu un énorme travail, ça a même développé des branches, ou ressuscité des branches des mathématiques. Je crois qu'un des principaux physiciens des supercordes, qui s'appelle Witten, a eu le prix, la Field Medal de mathématiques, donc c'est un travail qui fait appel à la fois aux mathématiques avancées et à la physique. Donc je suis à peu près certain qu'il y a eu d'énormes progrès, une grande cohérence dans le modèle, mais vous avez raison de dire que jusqu'ici, nous n'avons pas fait la jonction avec l'expérience. Mais si par hasard, ces dimensions recroquevillées dont les supercordes ont besoin étaient plus grandes que prévues, c'est pour ça que j'ai pris soin de dire que jusqu'à des dimensions de 100 microns, il se pourrait que la gravitation opère non pas dans 4 dimensions, mais dans davantage. Il se pourrait que dans les machines à venir, on ait des effets anormaux. Mais je ne vous le garantis, je ne signerai pas.
Une autre question ?
Oui, je voulais demander, est-ce qu'on peut donner une définition du vide ? Ou d'ailleurs, est-ce que le vide existe ? D'ailleurs, est-ce que c'est valable de dire le vide, ça me paraît un peu abusif.
Bon, ben justement, je vous ai dit, j'avais une phrase entre guillemets qui disait « le vide n'est pas vide ». Le vide, je dirais que le vide, ça n'est pas ce qui reste quand on a tout enlevé, je dirais c'est l'état de plus basse énergie de l'univers. Or, le mécanisme de Higgs est précisément quelque chose qui montre qu'il se peut que l'état de plus basse énergie de l'univers soit obtenu quand il reste quelque chose dedans. Autrement dit, qu'ajouter quelque chose, comme le champ de Higgs, baisse l'énergie de l'univers par rapport à ne rien avoir du tout. Donc dans le modèle actuel de Higgs, ainsi d'ailleurs que dans tous les autres modèles de brisure de la symétrie électrofaible, le vide n'est pas vide. Son état le plus bas est obtenu quand il reste quelque chose dedans. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose est que le vide, je vous l'ai dit aussi, le vide est quantique. Donc le vide est une banque qui veut bien vous avancer de l'énergie à condition que vous la remboursiez vite. C'est-à-dire que le vide, même s'il y a en moyenne rien dedans, si vous savez le regarder pendant des temps très brefs, peut fluctuer en énergie et par exemple vous fournir une paire top-anti-top et bien d'autres choses, mais il faut faire vite parce que la durée de vie d'une paire, disons W-anti-W, c'est 10⁻⁷ secondes. Donc si vous avez un appareil photo réglé à 10⁻⁷ secondes, vous devriez voir le vide s'agiter en permanence. Alors nous avons des choses qui travaillent. Quand on fait un Z0 au LEP, tout est terminé en 10⁻⁴ secondes, même un peu moins, 10⁻⁵ secondes. Donc, si vous voulez, la fabrication d'un Z0 est quelque chose de suffisamment bref pour sentir les fluctuations du vide jusqu'à des énergies de quelques GeV. Et c'est la clé de cette évolution des constantes avec le pouvoir de résolution que je n'ai pas eu le temps d'expliciter. Donc, le vide peut être... peut ne pas être vide et de toute façon, il est constamment fluctuant jusqu'à des énergies qui peuvent être infinies si vous savez le regarder très brièvement. Je ne suis en train que de vous décrire la relation d'incertitude tant d'énergie de Heisenberg.
D'abord, merci de votre exposé tout à fait remarquable. Je me permets de vous demander... Vous avez évoqué le fait que certains bosons du type W peuvent réagir entre eux. Peut-on réaliser ou imaginer ce que peut être le résultat d'une collision boson-boson ? Merci.
Ah ouais. Oui. Bon, bref. je ne sais plus très bien où j'en suis dans mes papiers, mais oui, nous avons... Quand nous fabriquons des paires de W au LEP, nous les fabriquons en fabriquant d'abord un Z0 virtuel qui ensuite va se désintégrer en 2W. Et bien précisément ce diagramme où un Z0 et 2W sont couplés est une nouveauté absolue par rapport à l'électromagnétisme. C'est l'équivalent, pour l'interaction faible, de 3 photons qui se coupleraient, ce qui ne se produit jamais. Eh bien, ce diagramme est absolument essentiel. Si nous ne l'utilisions pas dans nos prédictions théoriques, nous nous tromperions d'un facteur 3 sur la probabilité de fabriquer les paires de W. Autrement dit, nous avons une évidence absolue de l'auto-couplage des bosons vectoriels faibles. Et pour les gluons, bon, nous n'avons pas d'évidence directe, mais nous avons une évidence indirecte assez considérable, qui est le confinement, c'est-à-dire le fait que la force entre deux quarks, à cause de l'échange de gluons, est d'une nature très différente de la force entre deux électrons par échange d'un photon. Deux électrons, on peut les séparer. Deux quarks, quand on essaie de les séparer, à cause du fait que les gluons interagissent entre eux et accroissent la charge de couleur, la force reste constante avec la distance. Vous avez un potentiel qui croît même comme la distance entre les quarks. Autrement dit, à partir d'un certain moment, vous avez mis tellement d'énergie dans le système en tirant qu'il préfère fabriquer des paires nouvelles quark-antiquark. Et c'est ça qui donne le jet. Au lieu de séparer le quark et l'antiquark, vous fabriquez en fait... C'est un peu comme si vous vouliez casser un aimant. Si vous voulez casser un aimant, vous n'obtiendrez pas un pôle nord, un pôle sud, vous obtiendrez deux petits aimants. Puis si vous cassez encore deux petits aimants. Bon, c'est un petit peu une analogie. mais c'est à cause de la nature de la force entre quarks, qui est due à l'auto-interaction des gluons, que les quarks ne peuvent pas être isolés et restent confinés à l'intérieur des nucléons. Donc, évidence indirecte. Mais pour les W, c'est direct, on le voit. Ça nous crève les yeux au LEP.
Je vous remercie.